Je suis avec Léo, joueur de la team Betclic. Léo, comment tu te sens ?
J'adore ce parfum d'Europe. Je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher.
Prêt pour le coup d'envoi alors ?
Ouais, mon app Betclic est ouverte.
Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne. Alors rendez-vous maintenant sur l'app Betclic pour en profiter. Betclic et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Live en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. Suite de notre week-end international, les Bleus sont en Irlande. Kylian Mbappé et Didier Deschamps étaient en conférence de presse ce soir à la veille du deuxième match de qualification à l'Euro 2024. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place dans quelques minutes, les dernières infos compo. On écoutera le capitaine des Bleus et on vous attend au 32-16. N'hésitez pas, appelez-nous Adriella au standard et venez nous donner votre équipe idéale pour demain soir, par exemple l'Irlande. Ça vaut quoi l'adversaire de demain? Julien Laurence sera avec nous et nous parlera de cette équipe. On débriefera avec Julien d'ailleurs le match de l'Angleterre contre l'Ukraine. Quelques minutes à jouer, les Anglais mènent toujours 2-0. Johan Crochet sera là également d'ici une demi-heure avant le match de l'Italie à Malte ce soir à 20h45. L'Italie qui a perdu contre l'Angleterre et qui doit donc gagner pour se lancer dans ses qualifs à l'Euro. 32-16, n'hésitez pas, vous avez la parole ce soir plus que jamais dans l'After Live sur RMC. Vous nous appelez, vous venez commenter tous ces sujets en nous appelons sur les réseaux sociaux également, le Direct Studio, les applis RMC, RMC Sport. Je vous lis également sur Twitter le hashtag RMC Live. J'ai parlé de foot, vous en avez l'habitude tous les soirs sur RMC. Mais l'événement ce soir, c'est le top 14 et le derby parisien pour lancer le sprint final. Le Stade français reçoit le Racing 92. Dernier match de la 21e journée. Ce sera à vivre en intégralité à partir de 21h05 avec notre membre de la Dream Team. Ancien pilier international passé par le Racing notamment. Je le dis pas trop fort. On verra comment ça va tourner ce match. C'est Julien Brugnot. Salut Julien.
Salut, bonsoir.
Tout va bien?
Écoute, pour le moment, oui. Je t'avoue que la dernière fois qu'il y avait ce derby, j'étais un peu plus confiant avant et un peu moins après.
La dernière fois qu'il y avait ce derby, c'était le 24 décembre.
Et oui, et avec cette fameuse déculottée 48-10 à domicile pour le Racing. Ouais.
Et le Stade français qui avait écrasé le Racing. Julien Richard et Valentin Jamin sont à Jambouin déjà. Salut les gars.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bonsoir messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Dans un peu plus d'une heure, le coup d'envoi de ce match. Alors, l'événement, il y a beaucoup de choses à en parler, mais il y a aussi un événement ambiance. Une fois n'est pas coutume, on attend du monde à Jambouin.
Oui, je crois qu'il y a plus de 15 000 billets qui ont été vendus et ça n'a pas dû arriver souvent cette saison. Même si ce derby est peut-être moins virulent dans les avant-matchs qu'avant, hein, en tout cas plus feutré, on va dire, ça reste quand même une affiche qui évidemment va attirer le public et les fans de rugby de la région parisienne. On s'attend à faire à ce qu'il y ait un peu de bruit dans ces tribunes de Jambouin.
Alors Julien Brugnot est là, on l'a testé hier très fort en blind test, musique dans les stades. Tu l'as là, celle-là qu'on entend Jean-Moi?
J'ai pas entendu.
Allez, écoute,
j'ai pas l'oubli assez fine.
Vous l'avez Julien, Valentin?
Ils ont changé là, c'était ouais. Starlight.
Alors juste avant, mais là maintenant.
Starlight? Ah non, là maintenant je sais pas.
Ah, j'ai pas non plus, je t'avoue que là je sèche.
Bah il est Cyrus.
Ah, mais t'es injouable.
Ouais, t'es injouable. Ouais, tu vas trop lent pour nous. Là.
Voilà.
J'ai plus de 40 ans.
On retourne sur le rugby.
Je vais m'entraîner.
On le disait, les gars. Valentin, Julien, derby, placé sous le signe de la revanche ce soir.
Oui, et vous parlez de 48-10. C'est vrai que là, juste avant l'entrée du stade, il y avait des fumigènes, il y avait des banderoles, il y avait des drapeaux. Mais c'était pas des manifs. On parlait 49-3, on parlait 48-10. Évidemment, c'est dans toutes les têtes des supporters et des joueurs, surtout du Racing 92, parce que cette défaite dans la Paris La Défense Arena, évidemment elle a laissé des traces et surtout elle a servi clairement hein, au staff et aux joueurs pour se motiver pour cette revanche, on va appeler ça comme ça, en tout cas ça a été présenté comme ça toute la semaine, cette revanche des joueurs du Racing 92 face au Stade français et des joueurs surtout du Racing 92 et un club qui en a besoin de venir prendre des points et de venir prendre cette revanche ici sur la pelouse du Stade français parce que le Racing est 9e du top 14 avec 47 points. Ils sont à 5 points de Toulon qui est 6e, donc ils ne sont pas encore largués pour la course à la qualif, hein, au top 6, Mais il reste 6 journées, donc il ne faut plus les traîner en route s'ils veulent sauver un peu leur saison qui est compliquée, on le rappelle, éliminer des Coupes d'Europe. Eux qui étaient deuxièmes après 12 journées du top 14, ils ont connu, c'est vrai, un hiver difficile et ils espèrent prendre leur revanche.
Tu parles de revanche, mais il me semble que dans les propos des joueurs parisiens, quand même, il y a une frustration qui est encore ici, des quatre défaites de l'année dernière.
Exactement.
Des 3 d'affilée, surtout. C'est 3 d'affilée qui avaient fait très mal aux joueurs parisiens.
Oui, d'ailleurs, le coach du Stade français, Gonzalo Quesada, qui s'est présenté en conférence de presse, tout comme ses joueurs, et notamment Romain Briatte, ne pavanait pas du tout après ce 48-10 infligé au Racing. Romain Briatte, par exemple, a justement insisté en disant: on n'oublie pas les 4 fessées qu'on a pris la saison dernière. Donc l'idée, c'était de ne pas faire les malins, comme on dit, aussi de ne pas donner un petit peu d'éléments pour se motiver au Racing, parce qu'évidemment, si on avait fait des grandes phrases en conférence de presse en se satisfaisant de cette victoire de la Lille, Racing aurait pu s'en servir, mais effectivement, oui, ils ont encore les fesses un petit peu rougies par ces 4 défaites la saison dernière, les Parisiens face au Racing 92.
Il y en avait 2 en top 14 et 2 en Coupe d'Europe.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il y avait 4 défaites.
Les gars, vous avez commencé à en parler. Au-delà de l'aspect revanche, la domination territoriale avec ce derby, on arrive vraiment dans le money time là, et j'aimerais avoir ton avis, Julien. 21e journée top 14, il reste 6 matchs. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de match de top 14 avec le tournoi. Est-ce que le top départ de la dernière ligne droite, c'est vraiment
ça y est, on a lancé la course aux qualifications. Tout à l'heure, on a explosé. Le Stade français 3e aujourd'hui sur un ordre de marche. Aujourd'hui, un peu moins l'impression que le Racing au niveau du résultat, mais bon, quand même, par rapport à l'historique, ils vont vouloir gagner et assurer leur place dans le top 6. Mais c'est vrai que le Racing aujourd'hui, si malheureusement ils étaient amenés à être défaits, ça pourrait être compliqué pour intégrer le top 6. Le top 8 encore atteignable par rapport à la qualification en Champions Cup. C'est pas mort, mais le top 6, ça avance. Puis ils ont un calendrier qui est compliqué. Ils ont des équipes qui vont également jouer leur qualification dans le top 6. Donc je pense que le Racing aujourd'hui, ils ont intérêt à se servir un peu de tout. Ils ont une équipe qui est alignée, qui est correcte, qui est bonne, qui est pas moins forte en tout cas sur le papier que le Stade français. Aujourd'hui, ça serait bien qu'ils fassent un gros coup et qu'ils prennent exemple sur La Rochelle, qui a pris sa petite revanche de belle manière hier.
Ah oui, et hier ils ont fait
gagner à Bordeaux. Ouais.
L'UBB, on l'a vécu en direct. Effectivement, les gars, Valentin, Julien, finalement, c'est peut-être le Racing qui a plus à perdre ce soir.
Oui, oui, le Racing, effectivement, qui est donc à 5 points du top 6. Donc évidemment, et on le répète, le Racing a absolument besoin de gagner des points. Tu parlais du calendrier, Julien. Le Racing, il va lui rester un déplacement à l'UBB, la réception de Perpignan, la réception de Bayonne et de Toulon, et un dernier déplacement à Clermont. Donc c'est vrai que ce sera toujours de toute façon dans ce championnat ultra serré. Ça va être compliqué jusqu'au bout avec les équipes qui ont besoin de se sauver, les équipes qui ont besoin de prendre des points pour le top 6. Mais le calendrier aussi du Stade français est costaud. Donc le Stade français aussi, peut-être Valentin, ne doit pas traîner aussi, parce que même s'ils sont en 3e ex aequo, c'est pas forcément totalement fait.
Oui, bien sûr. Alors là, il y aura la Challenge Cup sur la prochaine ou les 2 prochaines semaines. Puis il y a Brive, Toulouse, Clermont et Lyon qui vont arriver. Et puis Julien parlait de la victoire de La Rochelle hier à Bordeaux. C'est pas forcément quelque chose qui va arranger le Stade français, puisque le Stade français vise, pourquoi pas, la deuxième place et la qualification directement pour les demi-finales du top 14. Pour le moment, La Rochelle a quand même 6 points d'avance et La Rochelle est deuxième de ce championnat. Donc si on veut avoir toujours cette ambition, pourquoi pas, de viser le top 2 ou de s'en rapprocher, il faut prendre des points à domicile pour le Stade français, qui n'a perdu qu'une seule fois à Jean-Bouin, c'était face à Toulon.
Valentin Jamin et Julien Richard en direct de Jean-Bouin, merci les gars, je vous laisse bosser votre playlist et on se retrouve vers 20h45 pour lancer en longueur ce match. On écoutera également les acteurs en conférence de presse cette semaine. À tout à l'heure les gars.
À tout à l'heure.
Julien, petite pause repas et on se retrouve à 20h45 pour lancer ce show. À tout à l'heure, 20h09, l'After Live en direct sur RMC. Vous commentez votre soirée sur le Direct Studio, sur Twitter, le hashtag RMC Live, et vous nous appelez au 32-16 dans un instant. Le foot de retour sur RMC. On sera en direct d'Irlande avec Fabrice Hawkins. On écoutera le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui était en conférence de presse à la veille de cette Irlande-France. Deuxième match des qualifs à l'Euro 2024. Les infos compo de Fabrice Hawkins. C'est tout de suite sur RMC.
Je suis avec Léo, joueur de la team Betclic. Léo, comment tu te sens ?
J'adore ce parfum d'Europe. Je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher.
Prêt pour le coup d'envoi alors ?
Ouais, mon app Betclic est ouverte.
Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne. Alors rendez-vous maintenant sur l'app Betclic pour en profiter. Betclic, et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes dimanche le 26 mars 2023. Merci d'écouter RMC l'After Live en direct jusqu'à minuit. L'After qui arrivera après le rugby ce soir dès le coup de sifflet final du derby qu'on suivra en intégralité entre le Stade Français et le Racing 92. L'After autour de Nicolas Jamin, Walid Acherchour et Kevin Diaz. Et il sera évidemment largement question d'équipe de France, puisque les Bleus sont au pays du rugby après la défaite du 15 de France à Dublin le mois dernier. L'équipe de France de foot dans le bon ordre tente sa chance en terre irlandaise et on retrouve en direct depuis la capitale Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Thibaut, salut à tous.
Bien arrivé en Irlande, on est bien, comment ça se passe sur place?
Oui, on est bien arrivé tout à l'heure à la mi-journée, hein, dans le même timing d'ailleurs que l'équipe de France, mais avec sans doute un petit peu plus de difficultés d'ailleurs que les Bleus. Hein, on a eu quelques petits soucis pour passer les contrôles, mais on est bien arrivé. Et ça, c'est l'essentiel. La ville de Dublin, Thibaut, fidèle elle-même de la grisaille, la couleur des briques rouges, des maisons de style géorgienne. On a longé le fleuve Liffey pour rejoindre notre hôtel et on a pu notamment apercevoir, dans notre car, on a aperçu de l'extérieur des supporters aux couleurs vertes de l'Irlande. Ils sont déjà chauds, ils seront présents en nombre demain. D'ailleurs, on prédit le pire en termes d'ambiance au bleu, puisque le stade sera complet, 50 000 personnes, même s'il y aura également des supporters français qui vont faire le déplacement. Peut-être qu'on va y revenir, mais en tout cas, on les a vus, les supporters irlandais, ils seront bien au rendez-vous.
On sera avec Julien Laurence, hein, d'ailleurs, dans quelques minutes, qui nous racontera tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue sportif sur cette équipe d'Irlande. Et puis, tiens, petite parenthèse que j'ouvre, je parlais du match de l'Angleterre contre l'Ukraine, deuxième match de qualif pour les Anglais à cet Euro 2024, il s'impose 2-0 grâce à Harry Kane et Bukayo Saka. On profitera d'avoir Julien sous la main pour débriefer cette rencontre. Cette arrivée sous la grisaille irlandaise, Fabrice, a peut-être été ensoleillée par cette conférence de presse de Kylian Mbappé il y a une heure ou deux là. Il va falloir s'y habituer, mais c'est toujours très bon d'entendre Kylian Mbappé, le nouveau capitaine.
Oui, bien sûr, des habitudes, on les prend avec grand plaisir, hein. Kylian Mbappé qui nous a régalé encore une fois, qui dit les choses tout simplement. Là, je suis dans l'auditorium qui a accueilli justement Kylian Mbappé et Didier Deschamps tout à l'heure aux alentours de 18h pour la conférence de presse.
J'ai l'impression d'entendre Eric Salio à Roland Garros.
Oui, parce qu'il y a des confrères, en fait, on travaille, on est tous dans la même pièce, il y a la télé, il y a les confrères qui sont concentrés aussi au niveau de la presse écrite, donc on essaye de pas embêter les uns et les autres, mais c'est vrai que Kylian Mbappé, il nous a régalé encore une fois, que ce soit sur tous les sujets d'ailleurs, hein, sur Randal Kolo Muani, on va y revenir, sur le jeu, sur cette génération exceptionnelle également, qui fait beaucoup parler tous les entraîneurs. Ronald Koeman, le sélectionneur de cette formation irlandaise, en a parlé aussi, et c'est vrai que Kylian Mbappé est toujours aussi à l'aise, notamment aussi pour parler de ses objectifs. On le sait, très très ambitieux. Il veut dépasser Michel Platini, c'est son prochain objectif, et nous l'a dit tout à l'heure, il a 38 buts, Michel Platini 41. Et si ça va aussi vite que depuis le début de sa carrière, il risque de le rattraper assez rapidement.
Il a parlé de Kolo Muani, tu le disais Fabrice, on va l'écouter, Kylian Mbappé à ton micro, c'était en fin d'après-midi, justement sur son nouveau compère d'attaque. Et tendez bien l'oreille, parce que peut-être que sans le vouloir ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il s'en fiche tout simplement, on a l'impression qu'il a une petite info compo pour demain, Kylian Mbappé.
Un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Énormément, il a un volume de course impressionnant. Je pense que pour l'équipe, c'est vraiment une flèche à notre arc, une nouvelle. Mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Et voilà, être récompensé par un but. J'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer.
D'ailleurs, petite parenthèse, on remercie Kylian qui va faire son arrivée, enfin qui va compléter ses jingles de l'after, hein, une nouvelle flèche, corde à son arc. On rappelle que l'expression,
c'est rare de l'entendre chez Kylian Mbappé. T'es dur.
Ouais, corde à son arc. En plus, il était bien parti et il a fourché. 32-16. Si vous voulez réagir sur cette équipe de France, donnez justement votre compo pour demain, Fabrice. Les dernières infos. Bon, on a l'impression que Kolo Muani va jouer demain. Qu'est-ce que tu peux nous confirmer?
À en croire le capitaine, il y a quand même des chances de le voir, Randal Kolo Muani, sur le terrain. Il s'était sur la pelouse de la Viva Stadium il y a encore quelques instants, les joueurs de l'équipe de France, pour s'entraîner. Nous, on a eu accès aux 15 premières minutes. Ensuite, c'était à huis clos. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas eu de mise en place. Donc, il brouille un petit peu les pistes Didier Deschamps. Pas de mise en place. On ne sait pas exactement. On n'est pas en mesure de vous dire si Randal Kolo Muani va débuter ou si ce sera Olivier Giroud. D'ailleurs, les deux peuvent débuter. C'est pas non plus totalement exclu. exclu. Hein. On peut imaginer Randal Kolo Muani à droite et Giroud en pointe. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait strictement rien puisque la mise en place n'a pas eu lieu. Ils se sont entraînés après un petit échauffement avec ballon. Il y a eu des centres, il y a eu des volées. Kylian Mbappé toujours en forme. Didier Deschamps qui a aussi pu échanger avec certains joueurs un petit peu plus en longueur, avec Adrien Rabiot par exemple, Dayot Upamecano également. Mais voilà, pas de mise en place. On va continuer évidemment à gratter, à aller chercher pour se renseigner ce soir jusqu'à demain toute la journée, à savoir un petit peu ce que va faire Didier Deschamps, puisqu'à un moment donné, de toute façon, il sera obligé d'annoncer les choses aux joueurs. Mais ce soir, on n'est pas en mesure, contrairement à ce qu'on avait pu faire jeudi soir, de vous dire avec certitude qui va jouer.
20h16, c'est l'After Live sur RMC. Fabrice Hawkins est en direct de Dublin et vous nous appelez au 32-16. Faites comme Étienne qui est là. Salut Étienne.
Salut tout le monde, comment ça va?
Ça va super, et toi?
En direct d'Atlanta, aux États-Unis, ça va.
Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Vacances?
Je bosse. Non, je travaille, je ramène des objets américains que je revends sur mon site.
D'accord, très bien. Quelle heure là-bas, demande Fabrice?
Là, actuellement, il est 14h17.
D'accord, très bien. Et donc, demain soir, pour cette Irlande-France, tu seras encore à Atlanta, tu auras le décalage, tu regarderas ça en plein après-midi?
Exactement, comme j'ai fait là pour le match face au Pays-Bas. Je me suis arrêté, je sais pas où en vrai, j'étais en Alabama, et je me suis arrêté chez un Mexicain, et le mec, je lui ai demandé s'il pouvait allumer la télé pour voir le match. Il m'a dit, y a pas de souci et tout, c'est un truc de fou,
c'était énorme. Ouais, tu te fais un petit road trip, tu t'arrêtes et tu demandes au gars, mais c'est magnifique.
À un moment, je voulais voir le match, et j'ai vu qu'il y avait un Mexicain, et là-bas, ils sont très, très soccer, et je leur ai dit, les gars, il faut vraiment que vous me rendiez
service. Bon, top. Mais bon. Est-ce que tu as vu vendredi, alors après-midi, pour toi, contre les Pays-Bas, est-ce que tu as envie de revoir exactement la même chose demain? On parlait de Kolo Muani.
Moi, j'ai grave envie de revoir cette équipe qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France qui est vraiment très bonne. Depuis un certain moment, généralement, ils ont des phases où ils sont éliminés dès que de la phase de poule. Là, on a l'impression, franchement, depuis une petite 8-10 ans, ouais, ils sont au top tout le temps. Et ça fait vraiment plaisir, même si on change certains joueurs, même s'il y en a qui partent à la retraite. Les mecs, on a l'impression qu'il y a quelque chose dedans, que dans cette équipe, ça vit, que ça rigole et qu'ils ont envie de jouer. Et moi, j'ai envie de revoir cette équipe qui m'a beaucoup plu, en fait. Et pourquoi pas faire d'autres changements, mais lors des matchs amicaux.
Donc là, tu repartirais sur la même chose. Tu ferais quoi comme changement sur des matchs amicaux, par exemple?
Après, sur les matchs amicaux, qu'est-ce que je ferais comme changement? J'essaierais... déjà, en fait, on a une bonne colonne vertébrale. Je pense qu'il ne faut pas la changer parce qu'elle est puissante. Après, faudrait voir, parce que comme il y a des nouveaux, je les connais pas tous encore, et je sais pas comment ça joue, mais notre colonne vertébrale, elle est vraiment top. On a un gardien qui est incroyable. Je pense qu'avec ce gardien-là, en finale, ça serait peut-être différent, en fait. Ça aurait été peut-être différent.
Ouais, on peut pas savoir, ça, Étienne. Hein.
On peut pas savoir, non. Mais là, vraiment, je pense qu'on a quelque chose vraiment de très, très bon. Et c'est mon avis, et je suis très content de voir cette équipe. J'ai été très fier, en plus. Après, j'étais là, je suis... Alors, les Mexicains et tout, on charriait et tout. Enfin, c'était génial, quoi.
Étienne, merci d'avoir été là ce soir dans l'After Live.
Je peux faire un petit big up à... En fait, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Hein, donc, okay. Un petit big up d'Atlanta à tout le monde. Et je peux dire ma page ou non?
Vas-y.
C'est 13h d'Amérique, 13h avec un S d'Amérique. Et si vous voulez me suivre en direct, vous pouvez, vous regarder ce que je fais, n'hésitez pas. Et j'ai des plaques RMC que j'ai trouvées aux États-Unis, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Des plaques d'immatriculation immatriculées RMC. Il faudrait que je vous les envoie.
Ouais, pour Fabrice, Fabrice, on pourra donner ça à Jeannot, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, il prend, je pense, hein, il est à côté de moi, je vais lui demander.
Je vous envoie ça, en tout cas, et merci de m'avoir appelé, c'est cool.
Merci Étienne, à très vite sur RMC, bye bye.
Allez, bon courage.
Et bon match demain après-midi pour toi, Étienne, en direct des États-Unis ce soir. Ah, voilà, on voyage, on a Étienne aux États-Unis, on a Fabrice Hawkins en Irlande, on sera avec Julien Laurence dans quelques minutes, Johan Crochet pour l'Italie, c'est l'After Live sur RMC. Il parlait de l'ambiance autour de cette équipe de France, le sourire. Étienne au 32-16, Fabrice, on va écouter Kylian Mbappé justement parler sur cette génération, lui le nouveau capitaine, cette peut-être nouvelle génération.
On l'appelle la génération Mbappé d'ailleurs.
Ouais, la génération Mbappé. Je vais te demander ton ressenti juste après, mais je voudrais qu'on écoute Kylian Mbappé justement sur cette nouvelle génération.
Cette génération, elle est insouciante, elle prend pas forcément toujours l'importance des enjeux, c'est ce qui lui permet de pouvoir jouer des matchs de haute pression comme si c'était des matchs entre guillemets lambda. Et je pense qu'on a toujours cette envie de toujours montrer et démontrer qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut être grand. Et je pense que c'est tout bonnement l'identité de cette génération-là, c'est cette envie de grandeur. Et je pense que dans cette équipe, on a pas mal de joueurs qui caractérisent ça et c'est très important pour une équipe qui veut viser les sommets.
J'aimerais ton ressenti, Fabrice, toi qui suis les Bleus depuis un moment, tu étais à la Coupe du Monde au Qatar, tu suis cette équipe de France-là. C'est quoi ton ressenti? Est-ce qu'il y a, une ambiance générale qui a quand même un peu changé ou c'est une espèce de continuité? Toi qui suis les Bleus?
Ouais, Thibaut, c'est une espèce de continuité. On sait que l'ambiance et le groupe sont des mots très très chers à Didier Deschamps. C'était déjà le cas et on l'a répété tout au long de la Coupe du Monde. Le groupe vivait bien et ce n'était pas qu'un poncif, c'était la réalité. Et là, encore une fois, on sent qu'il y a une forme de continuité, de passation entre ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés. On sent que le groupe vit bien et c'est pas fin vraiment de la part de Kylian Mbappé quand il le dit et de tous les retours qu'on a. Nous les suiveurs des Bleus, que ce soit Jeannot, moi ou Arthur Perrault, c'est vrai que ça vit très bien autour de Kylian Mbappé, avec des cadres évidemment, Antoine Griezmann, la nouvelle génération, on en parle souvent, c'est des garçons pour beaucoup, il faut le savoir, qui viennent quand même de la région parisienne, de Paris ou d'Île-de-France, qui se connaissent, qui jouent ensemble ou qui se sont côtoyés pour certains quand ils étaient plus jeunes, qui ont joué ensemble ou les uns contre les autres à 10, 12, 13 ans, donc c'est des garçons qui se connaissent bien, qui se chambrent et qui mettent vraiment une très très bonne ambiance.
Vous nous appelez au 32-16 pour réagir. Alors là, Étienne, qui nous a appelé des États-Unis, a réveillé nos auditeurs de l'After et des RMC un peu partout dans le monde sur le Direct Studio. J'ai Abdé qui m'écrit salut à tous depuis Los Angeles. N'hésitez pas sur Twitter ou sur le Direct Studio. Venez nous dire ce soir à 20h22 en France, nouvelle heure, d'où vous nous écoutez. Je lis vos messages ce soir et j'accueille Mickaël, autre supporter des Bleus au 32-16. Salut Mickaël.
Bonsoir tout le monde, vous allez bien?
Bah super, et toi Mickaël?
Ouais, après le match de vendredi, nickel.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il a mis la patate ce match, quoi. Tout le monde allait à le sourire. Et en fait, est-ce que tu t'attendais à avoir une aussi belle rentrée de l'équipe de France, Mickaël, finalement, avec une aussi belle prestation?
Je m'attendais à ce qu'on gagne, mais 3-0 d'entrée comme ça, ouais, non, ça a mis ça, je m'y attendais pas. Les Pays-Bas, c'était quand même quart de finaliste. Ah ouais. Et puis éliminé. Ouais, ça, c'était au tir au but, hein, qui se sont fait sortir par l'Argentine. Donc voilà, ouais, je pensais que ça serait un peu plus compliqué. Mais du coup, bah, ouais, ça confirme ce que je pense et ce qu'a dit Étienne avant moi. Cette équipe de France, elle met un sourire malade, quoi. C'est hyper excitant de l'avoir joué, quoi.
Ouais. Quand on entend Kylian Mbappé en parler, les infos, le ressenti de Fabrice et de nos suiveurs de l'équipe de France, il y a une bonne atmosphère autour de ces Bleus.
Ouais, c'est ça. Enfin, moi, en tant que supporter, on le ressent tout de suite, quoi. Je disais à mes potes après le match, je me dis mais on va fesser tout le monde pendant 4 ans, quoi. C'est, on attend, enfin c'est le dernier quart d'heure à chaque fois. Et en dessous, ça serait un mauvais résultat vu la génération qu'on a et le talent qu'il y a au sein de cette équipe de France, à tous les postes. Mais à tous les postes, quoi. Je veux dire, même le penalty de McMaignan qui l'arrête, on l'a fêté comme si c'était un but. C'est vrai. Alors qu'on était content qu'il l'arrête. Enfin voilà, c'était. On le voit, les joueurs aussi. Alors que le match est plié, bon, il l'arrête pas. Ça fait 4-1, bon. Mais là, non, on a fait ça comme un but, quoi.
Et c'est vrai que Fabrice, on a le discours optimiste de Mickaël d'atteindre le dernier carré à chaque fois. Finalement, c'est peut-être ça aussi qui a changé avec Kylian Mbappé capitaine qu'on a encore entendu ce soir sur RMC, c'est qu'il y a un côté ambitieux, assumé peut-être un peu plus qu'avant encore, oui. Avec Mbappé, quoi.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand ce matin il déclare que quand il se met à la place des supporters, il comprend qu'il puisse se dire comment est-ce qu'on ferait pour ne pas gagner l'Euro vu l'équipe qu'on a. Là, c'est Kylian Mbappé qui parle, mais qui se met à la place des supporters. C'est des discours qu'on n'aurait pas eu, par exemple avec un Hugo Lloris ou avec un Raphaël Varane qui avait un discours, c'est vrai, beaucoup plus policé. Et Kylian Mbappé, il dit les choses. C'est aussi pour ça qu'on l'apprécie et qu'on se régale à chaque fois qu'il vient en conférence de presse. Ils sont conscients d'avoir une grosse équipe. Ils sont conscients qui peuvent vraiment gagner des choses très intéressantes ensemble. D'abord parce que ils ont réussi un formidable parcours et on n'attendait pas forcément un parcours aussi brillant au Mondial avec toutes les absences qu'il y avait. Donc ils savent qu'ils peuvent faire les choses. Ils sont confiants. C'est aussi l'une des marques de fabrique de cette génération qu'on surnomme la génération Mbappé. Hein, vous voyez, ils doutent pas. Que ce soit Randal Kolo Muani qui rentre dans une finale alors qu'il devait même pas être appelé à la base. Il vient à la rescousse après la blessure de Christopher Nkunku. Il rentre dans cette finale pleine balle. Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, qui ont fait une Coupe du Monde formidable. Il y a des jeunes vraiment très très ambitieux qui ne doutent pas, et ça vraiment c'est une force, et encore une fois porté par un capitaine très très ambitieux qui dit les choses, qui se positionne, qui ne se cache jamais, et ça aussi c'est quelque chose qui a changé.
Mickaël, tu veux voir quelle équipe demain contre l'Irlande, le même 11 là que
ouais,
contre
le Pays-Bas? Franchement, le même. Pour moi, on part sur un super 11 là. Et lui donner de la confiance et de la régularité. Donc ouais, j'aimerais revoir vraiment le même 11.
Merci Mickaël d'avoir été là ce soir. À bientôt.
Merci à vous.
Bonne soirée. Salut Mickaël.
Merci. Bye bye. Au revoir.
20h26. On est toujours dans l'After Live sur RMC avec Fabrice Hawkins en direct d'Irlande. Et Julien Laurence nous rejoint, notre drôle de dame foot anglais, foot Royaume-Uni, quoi. Salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous.
Qui sort tout juste une victoire de l'Angleterre, 2-0 contre l'Ukraine. On en parlera dans quelques minutes, mais commençons par l'Irlande. Julien, on va détailler un petit peu dans quelques instants, mais d'une manière générale, ça vaut quoi cette Irlande-là?
C'est les valeurs habituelles de cette équipe là, c'est-à-dire qu'ils vont, ça va être un gros duel physique d'abord, c'est une défense à 5 qui va jouer assez bas, je pense, assez compact dans une super belle ambiance. C'est une sélection qui peine bien sûr à se qualifier pour les grandes compétitions, même si là il y a une nouvelle génération avec Stephen Kenny, le sélectionneur actuel, qui était l'ancien entraîneur des U21. C'est, je crois, l'âge moyen de l'équipe qui bat la Lettonie en amical vendredi soir ou jeudi soir, c'était 24 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un nouveau souffle, un petit peu un nouvel élan avec leur petit prodige à eux, Evan Ferguson, dont on parlera tout à l'heure, mais ça reste quand même, ça reste l'Irlande, c'est pas, ça joue pas très bien en ballon, c'est pas là-dessus qu'ils vont gagner des matchs. C'est fort sur coup de pied arrêté, c'est encore costaud, c'est des joueurs qui jouent pour la plupart dans les divisions inférieures anglaises, quelques-uns en première ligue, mais la plupart quand même en Championship, en League One. Donc c'est pas du niveau de l'équipe de France, bien sûr, mais c'est une équipe dont il faut se méfier, qui va te rendre le match difficile, ça c'est sûr.
On va détailler ça dans un instant avec toi, Julien. Juste Fabrice, d'un mot, tu parlais tout à l'heure de l'accueil, ces supporters. Tu sens une attente autour des footballeurs. Je le disais en début d'émission, l'Irlande, évidemment, c'est le rugby. En plus, là, ils ont une équipe de malades en vue de la Coupe du Monde. Mais ah oui. Tu sens avec le foot quand même un truc là.
Oui, on sent que, alors, c'est toujours difficile de savoir parce qu'ils ont des maillots, parfois c'est des maillots de rugby, parfois c'est des maillots de football, mais effectivement, il y a du monde dans les rues, ça parle, on a essayé d'aller gratter un petit peu, d'aller échanger avec eux, voir ce qu'ils ressentent un petit peu, et les premiers échanges, oui, ils savent très bien qu'il y a un match demain, ça c'est sûr et certain, beaucoup vont y aller, Kylian Mbappé, c'est un mot qui revient beaucoup, et ils le craignent, le sélectionneur en a parlé, leur sélectionneur tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la journée, lors de la conférence de presse, et effectivement, on sent qu'il y a un engouement aussi, parce que cette équipe, elle est exceptionnelle, cette équipe de France là, et ils veulent la voir aussi à l'heure. Il y a aussi, on soutient notre équipe, on vient évidemment pour pousser notre équipe, mais on vient aussi pour voir l'équipe vice-championne du monde.
Fabrice, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Les dernières infos, les derniers bruits, compos, équipe de France, ce sera dans l'after, hein, juste après le rugby ce soir autour de Nico Jamin. Merci beaucoup Fabrice. Julien, tu bouges pas, dans un instant on détaille cette équipe d'Irlande, on écoutera d'ailleurs encore une fois Kylian Mbappé qui a parlé de cette équipe. Vous allez voir que voilà, lui il regarde tout. Il a regardé le dernier match de l'Irlande. Vous continuez à nous appeler 32-16 si vous voulez venir réagir à l'antenne. Vous commentez l'émission sur les réseaux sociaux. Sur le direct studio, vous êtes nombreux à nous écouter un peu partout. Chef Romain nous écoute de Toronto. Lawez qui écrit qui aura de Nouvelle-Zélande 7h24 lundi matin en Nouvelle-Zélande. Stanislas nous écrit depuis Coventry en Angleterre. Merci à tous d'être là. Fidèle au poste, 20h29, l'After Live continue dans un instant. L'Irlande focus avec Julien Laurence. Puis je vous rappelle qu'à 21h05, l'énorme choc de top 14 entre le Stade français et le Racing 92. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
20h31, merci à vous d'être là en direct sur RMC à un peu plus d'une demi-heure de l'événement sport de cette fin de week-end. Le derby de la revanche entre le Stade français et le Racing 92, 21e journée de top 14, deux équipes qui ont absolument besoin de points dans cette fin de saison. Un match à vivre en intégralité sur RMC, on retournera à Jean Bouin d'ici un quart d'heure avec Julien Brugnot, notre membre de la Dream Team. D'ici là, le foot dans l'After Live avec Julien Laurence qui est toujours avec nous. On va revenir sur la victoire de l'Angleterre dans quelques minutes avec toi Julien contre l'Ukraine 2-0. On sera aussi avec Johan Crochet puisque l'Italie joue ce soir à Malte à 20h45. Ce Malte-Italie fera partie des matchs qu'on suivra en fil rouge ce soir. Mais d'abord, Irlande, puis bon, la question grand public mais que j'ai absolument envie de te poser, Julien,
Irlande, foot, la main de Thierry Henry, évidemment. C'était hier, il y a 14 ans. Est-ce qu'on on a toujours ça dans les têtes
Toujours.
Ouais.
Ah ouais. Ouais, bien sûr, toujours, toujours. À chaque fois que je croise un des joueurs, par exemple sur les plateaux de télé anglais ou britannique ou à la radio, un joueur qui était sur le terrain, un Irlandais ou un ancien consultant, un ancien joueur ou même un supporter, on me parle toujours de cette main-là, forcément, de ce qui s'est passé au Stade de France ce soir-là dans ce play-off contre les Irlandais. On avait vu déjà à la Viva Stadium. Lors du match aller, un match accroché déjà, rappelez-vous le but de Nicolas Anelka, et puis bien sûr après cette très belle performance irlandaise au Stade de France pour le match retour, et puis bien sûr la prolongation, la main, etc. Mais oui, c'est ça, ils oublieront pas, hein, les ils sont très beaux joueurs, ils sont très fair-play, mais ils sont très rancuniers aussi, les Irlandais.
Et oui, cette main de Henry pour le but de Galas, d'ailleurs, qui avait permis aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010. Et d'ailleurs, même si depuis, l'équipe de France a déjà affronté l'Irlande, hein. Il y a eu l'Euro 2016, il y a eu un amical par la suite. Écoutons Kylian Mbappé, qui était en conférence de presse aujourd'hui, capitaine des Bleus. Cette équipe d'Irlande, bah, il connaît, parce qu'il regarde les matchs, Kylian Mbappé.
C'est une équipe qui joue différemment, déjà, de par son système. C'est une équipe qui joue à trois derrière. Qui, de par sa réputation, non, on a tendance à penser de réputation que c'est une équipe qui va être très très rugueuse, mais c'est une équipe qui joue au football, donc c'est faut faire très attention à comment on va aborder le match demain. Il faut vraiment pas penser que voilà, on va avoir le ballon tranquillement et on va pouvoir déployer notre jeu et attendre que ça se passe en attendant que la différence se fasse. Il va vraiment falloir qu'on soit offensif, qu'on soit agressif dans le bon sens du terme. Et je pense que voilà, ça va être un bon match de football demain et j'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille.
Alors on l'a pas entendu dans cet extrait, le micro de Fabrice Hawkins, mais il a précisé un peu plus tôt, je crois, dans sa réponse, qu'il disait qu'il avait regardé la première période, ou enfin une des deux, contre la Lettonie mercredi, la victoire 3-2. Son analyse à Mbappé, elle est précise. Ils ont un peu changé, mine de rien, les Irlandais, Julien, quand même.
Oui, un petit peu, parce que la nouvelle génération est un petit peu différente. Ces jeunes joueurs dont on parlait tout à l'heure, les Jason Molumbi, les Alan Brown, il est plus trop, je sais pas, en plus je sais pas s'il sera titulaire, mais voilà, Obafemi, Smallbone, tout ça, bien sûr Ferguson. Mais demain, contre l'équipe de France, ils auront pas 60% du ballon, ils auront pas 50% du ballon non plus. Ils savent très bien comment jouer contre cette équipe de France-là. Et Kylian a raison dans un sens, bien sûr, mais il sait aussi très bien que demain, ce sera un bloc très bas. Ils vont pas essayer de faire, un pressing tout terrain ou d'essayer de jouer d'enchaîner les passes pour faire bouger cette équipe de France. Ils vont défendre, surtout, avant tout. Ils vont miser sur les coups de pied arrêtés, c'est sûr, et ils vont miser bien sûr sur le talent assez exceptionnel de leur Mbappé à eux, d'Evan Ferguson.
Mais alors sinon, ça, ouais, on parle beaucoup de lui,
ça reste limité.
Ouais, c'est vrai pépite Ferguson, l'attaquant de Brighton.
C'est un talent fantastique. Ouais. C'est un talent fantastique. Il a 18 ans, il est d'octobre 2004, c'est la génération 2004, mais c'est ce genre de joueur là, un petit peu comme Kylian pour nous d'ailleurs. Déjà quand il avait 11 ans, 12 ans, alors c'est le fils de Barry Ferguson, un ancien international, un ancien joueur professionnel qui a pas joué non plus dans des très très grands clubs, mais qui a eu une bonne carrière de joueur de terrain irlandais. Mais depuis très jeune, on sait qu'il avait un talent fantastique. Il a commencé avec les Bohemians à 14 ans en équipe première, à 15 ans en championnat. Alors certes, c'est la première division irlandaise, c'est pas le niveau de la Ligue 1 ou de la Première Ligue, mais c'est quand même impressionnant de voir un gamin de 15 ans débuter et jouer avec des adultes comme il l'a fait, et puis ensuite d'être courtisé par les plus grands clubs anglais. Et il a choisi Brighton parce qu'il savait très bien que s'il allait à Liverpool ou à Manchester United, dans ce genre de club là il aurait peut-être plus de mal à découvrir l'équipe première et la Première Ligue. En allant à Brighton, il savait que le chemin serait peut-être plus simple, plus facile, et ce qu'il a été d'ailleurs, parce qu'à 18 ans il fait une saison fantastique sous De Zerbi qui a découvert ce diamant brut là, cette petite pépite qu'il est en train de façonner à sa façon. Et je pense que De Zerbi était l'entraîneur parfait en plus pour faire encore plus exploser Evan Ferguson. Donc je sais pas. Alors là, je dis ça, et demain, s'il est nul ou si je vois beaucoup de ballons, on me dira, ah ouais, tu t'es enflammé. Ouais, c'est pas que je m'enflamme, c'est que, non, mais dans une équipe qui va être en difficulté contre les Bleus, c'est pas un joueur qui va prendre le ballon et qui va dribbler tout le monde et aller marquer contre nous. C'est pas ça. Mais il a un talent vraiment spécial.
Et ben, on le découvrira demain soir. Evan Ferguson à la pointe de l'attaque irlandaise pour ce deuxième match des qualifs pour l'équipe de France à l'Euro 2024. 20h45. 5 à Dublin et ce sera évidemment sur RMC demain. Ces qualifs qui ont lieu tout le week-end et pour les Anglais, bah, c'était là ce soir, enfin en fin d'après-midi, Julien, victoire 2-0 contre l'Ukraine, 3 jours après déjà la victoire contre l'Italie pour ce premier match de 2-1. Tout va bien pour les Anglais, un grand alors buteur Kane et Saka ce soir, grand Saka hein, surtout.
Très grand Saka, surtout en première période, puisque les Anglais ont marqué coup sur coup en l'espace de 4 minutes, 37e, 41e, 40e. Centre de Saka pour Kane, donc pour son 55e but, lui qui jouait avec des crampons, des chaussures spéciales faites par son équipementier après le record qu'il a battu donc lors du dernier match. Et puis donc le deuxième but magnifique de Saka qui récupère le... Enfin, à qui on donne le ballon dos au but aux 25 mètres plus ou moins, il fait contrôle orienté, il se retourne, il frappe après enroulé pied gauche intérieur dans la lucarne de Trubin, un but magnifique. Sincèrement, je me suis ennuyé à part ces deux moments-là, sinon j'ai trouvé que c'était un petit peu soporifique parce que les Anglais étaient trop forts, il y avait pas assez de niveau en face pour les Ukrainiens pour les faire douter un petit peu ou les mettre en danger, donc ça a été très tranquille pour les Anglais, mais c'est une bonne victoire, t'enchaînes, cette fois tu prends pas de but, mais voilà, il y a eu trois frappes toutes hors de la surface pour les Ukrainiens, il y avait vraiment rien en face, donc une victoire tranquille des Anglais.
Ils ont été bons sur les deux périodes cette fois parce qu'on se souvient de la deuxième contre l'Italie qui avait été assez catastrophique.
Ouais, ils ont géré la deuxième là aussi, okay. Thibaut. Ouais, ils ont géré, de toute façon il y avait ils auraient pu accélérer un peu plus. Moi ce qui me gêne encore, et ça c'était le cas même en première période, c'est un manque d'intensité. D'ailleurs, il y avait zéro ambiance à Wembley, c'était un peu décevant, j'ai trouvé. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'intensité. Ils n'ont pas besoin d'en mettre puisqu'ils gagnent quand même, donc ça vient peut-être de là aussi. Mais c'est une équipe qui je trouve manque beaucoup d'intensité. Et dans les intentions de jeu, ça se ressent aussi malgré tout le talent qu'ils ont sur le terrain. Donc on a vu James Maddison, mais encore une fois, le Sylvain Ripoll anglais l'a fait jouer sur le côté gauche, donc c'est gâché un petit peu son talent, mais bon. Au moins, il a eu une sélection, donc c'est bien pour lui.
Et ça fait 6 points pour les Anglais. Merci beaucoup, Julien. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Toi. Et non, j'allais donner rendez-vous demain. Non, demain, pas exceptionnellement de Génération After spécial drôle de dame, puisqu'on a le match des Bleus. À très vite, Julien. Johan Crochet est là également. Il se passe le relais, les drôles de dames, ce soir. Salut, Johan.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Dans 5 minutes, et on le suivra sur RMC dans l'After Live en fil rouge, l'Italie débute son deuxième match de ses qualifs contre Malte, avec là, par rapport aux Anglais, une petite urgence de points quand même, puisque les Italiens ont perdu face aux Anglais. La compo, malgré cette petite urgence relative de points, on fait tourner là, côté Mancini.
Ouais, je suis surpris qu'il y ait autant de changements. Alors, c'était annoncé depuis hier. Même Mancini avait dit à la fin du match contre l'Angleterre qu'il ferait beaucoup tourner. Mais là, honnêtement, qu'il reste que deux joueurs de champ, parce qu'il y en a trois avec Donnarumma du premier match, je suis quand même un peu surpris, vu l'urgence de points, comme tu l'as souligné. Alors, les deux joueurs qui restent, c'est Di Lorenzo, arrière-droit du Napoli. Et puis Retegui qui enchaîne devant au poste numéro 9. Première sélection contre l'Angleterre, buteur. Deuxième sélection dès ce soir. C'est un petit camouflet quand même pour Scamacca, qui a pas de temps de jeu à West Ham. Et après, honnêtement, ce qui va beaucoup m'intéresser, moi, c'est la charnière centrale, parce qu'il y a un gros problème de charnière quand Bastoni n'est pas là. Bonucci, je répète assez souvent sur les antennes de RMC que pour moi, il a fait sa carrière grâce à Chiellini et Barzali, et c'est pas un défenseur.
Il a mis qui là ce soir?
Là, c'est Scalvini, le jeune de l'Atalanta, et Romagnoli de la Lazio. Donc, c'est totalement expérimental. Un des gros problèmes de l'Italie sur la charnière, au-delà même de la qualité des joueurs, c'est qu'il y a beaucoup trop de clubs qui jouent à 3 et que Mancini, lui, joue à 4 derrière. Et ça pose quand même pas mal de problèmes quand t'as des défenses à 3 avec des Toloi, avec des Scalvini qui sont habitués à apporter offensivement et qui, là, doivent se restreindre un peu quand ils sont dans une défense à 4. Donc, on verra, mais grosse urgence de points. Je peux vous dire que si ça se passe mal ce soir, ça va commencer à devenir quand même assez tendu pour Mancini. Mais on a hâte de voir, parce qu'il y a des joueurs très sympas. Hein. Tonali, titulaire, c'est bien. Cristante est devant la défense. Je suis pas un énorme fan, mais c'est à peu près solide et il sait faire pas mal de choses. Et puis le trio d'attaque, Politano, Retegui, Gnonto. Politano et Gnonto, ils doivent faire 1m70 tous les deux. Mais ils vont vite, ils sont techniques. Et Retegui, on verra comment il va s'adapter sur ce deuxième match. Sachant que le premier match, il a marqué OK, mais on a vu encore qu'il y avait quand même pas mal de travail effectué sur ce joueur-là. Ouais.
Ce soir, tu dirais finalement, Johan, que il y a pas mal de joueurs qui ont peut-être un gros coup à faire ce soir. Il y a des places à prendre après la déception du match contre l'Angleterre.
Il y en a pas tant que ça, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'absents aussi. Je l'ai pas dit encore, mais Bastoni, Bonucci, Barella qui a quitté après le premier match contre l'Angleterre, Chiesa, Immobile et beaucoup d'autres, qui sont pas là. Mais je pense par exemple qu'un Tonali, a intérêt de faire un bon match ce soir, parce que je pense que le double playmaker, comme on l'a vu, Verratti-Jorginho, c'est plus assez compétitif, et en termes de profil, ça pose des problèmes. Donc il y a une place à prendre, et Tonal, il a intérêt à être bon. Je pense que un joueur comme Politano peut vraiment concurrencer un joueur comme Berardi, parce que Berardi a été totalement transparent lors du match contre l'Angleterre. Et après, non, je suis pas sûr, parce que Bastoni Bonucci, ça paraît être la charnière quand même. Barrel là au milieu est quand même paraît assez indispensable. Donc on verra, mais il y a deux trois joueurs quand même qui ont plutôt intérêt à faire un bon match dans l'espoir de bousculer un peu la hiérarchie de Mancini, qui je suis pas certain qu'elle soit aussi sûre aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois.
Et juste pour conclure, là, après la défaite contre l'Angleterre 2-1, on se souvient de ces deux matchs dans le match, avec une première période totalement dominée par les Anglais, qui menaient 2-0, ça aurait pu faire plus à la pause, et les Italiens qui ont totalement dominé la deuxième. Comment on a réagi en Italie? Est-ce qu'on a plutôt retenu la première ou la deuxième, quoi?
On a surtout retenu la première, pour être tout à fait honnête. Ouais. La Gazzetta titrait, par exemple, le lendemain de la défaite, Poco Italia, en gros, il y a eu trop peu d'Italie sur le match. On a vu trop peu de choses, et c'était un peu le son de cloche partout en Italie. C'est-à-dire que, ok, la réaction est bonne, mais quand t'es mené 2-0 et qu'au final, ça aurait pu faire 3-0 si Grealish ne rate pas une énorme occasion, on analyse le match différemment, en fait. Et puis, c'est trop tard, en fait, de se réveiller à 2-0. Donc, il y a pas mal d'inquiétudes, il y a pas mal de critiques aussi sur Mancini. Il y a encore des journalistes qui estiment qu'il aurait dû partir après la non-qualification à la Coupe du Monde. Mais après, dans un pays, même s'il est plus aussi exigeant qu'avant au niveau football, qui reste quand même un petit peu exigeant, c'est normal qu'après une défaite de cet ordre-là, avec la configuration du match, il y a des critiques et un peu d'inquiétude. Ouais.
Tiens, juste en 10 secondes, je profite de l'absence de Daniel pour te demander si Verratti capitaine, ça fait débat en Italie ou pas.
Pas trop, parce qu'il n'y avait pas 50 joueurs qui pouvaient prendre ce brassard-là aujourd'hui. Donc ça fait pas spécialement débat. Après, ce qui fait débat, c'est plutôt le double pivot Jorginho Verratti, où on se rend compte qu'il y en a un trop là, clairement. Dans l'évolution du football, il va falloir trouver un autre profil au milieu de terrain. Ouais.
Malte, Italie, coup d'envoi dans 30 secondes. On suivra ce match en fil rouge ce soir sur RMC. Et Johan, on te retrouve dans l'after avec Nico Jamin, Walid Achirchour et Kevin Diaz ce soir pour débriefer cette rencontre. Merci beaucoup Johan.
Ciao ciao.
Bon match. Ciao. 20h44, l'after live sur RMC. Dans un instant, on retourne à Jean Bouin parce que c'est l'événement sport en France ce soir, ce derby du top 14 entre le Stade Français et Racing 92, la revanche du Racing qui doit gagner pour remonter dans le top 6. C'est à vivre en intégralité sur RMC avec Julien Brugnot et avec en direct du stade Valentin Jamin et Julien Richard. Ne changez rien.
RMC, l'Afterlive.
Thibaut Giangrande.
Dimanche, le 26 mars 2023, vous êtes sur RMC. Merci à vous. Peut-être retour de week-end, peut-être en voiture, peut-être tranquillement à la maison. Restez bien installés. En tout cas, tout se passe ici, à la fois l'événement sport de la soirée, le sprint final qui se lance en top 14 avec ce derby francilien. Le Stade Français reçoit le Racing 92. Coup d'envoi 21h05 à vivre sur RMC. Et en même temps, sans zapper, on vous propose les principaux résultats de la soirée foot. Les qualifications à l'Euro 2024 qui continuent en attendant le Irlande-France de demain, ça vient de partir entre Malte et l'Italie. On en parlait il y a un instant, 0-0 après 3 minutes de jeu. On suit également le Portugal ce soir, qui est au Luxembourg, 0-0 pour le moment. Un petit coup d'œil sur la compo portugaise pour vous dire que Cristiano Ronaldo est à nouveau titulaire aux côtés de Joao Félix dans le nouveau système à 3 derrière proposé par ce nouveau Portugal. Mais à 20h48, on retrouve Julien Brugnot, notre membre de la Dream Team, ancien international, ancien pilier du Racing 92, notamment dans cette riche carrière. Mais t'as joué dans un seul des deux clubs franciliens, Julien. Le constat est là.
Hey, effectivement, j'ai connu pendant 7 ans le Racing. Ouais. Ouais.
Mais tu seras totalement objectif, évidemment, à l'heure de commenter.
Absolument, après la douche froide du 24 décembre, je vais être objectif.
Ce derby, l'heure de la revanche a sonné pour le Racing 92. Humilié à la maison un soir de réveillon le 24 décembre dernier. C'est à Jean Bouin que ça se passe ce soir, sous les yeux de Valentin Jamin, de Julien Richard et, a priori, messieurs, vous allez nous le dire, mais de beaucoup de monde. C'est ce qui a été annoncé, est-ce que Jean Bouin se remplit?
Alors, Jean Bouin se remplit petit à petit. Alors, c'est pas complètement plein, mais on nous annonce effectivement, je crois, un peu plus de 15 000 billets vendus. Et qui dit derby entre le Stade français et le Racing 92. Thibaut dit évidemment présence de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est venue sur la pelouse voilà, pour un petit cérémonial et dire deux, trois mots au micro. Je pense que le temps a dû lui paraître un peu long parce que le public était, on va dire, pas vraiment à l'écoute. Et elle a plutôt reçu quelques sifflets descendus des tribunes de Jean-Bois. Mais en tout cas, il y a du monde, il y a de l'ambiance. On l'a vu on arrive à l'arrivée des joueurs avec les fumigènes craqués par les supporters du Stade français comme ils en ont l'habitude. Et oh, allez, on va dire 200-300 supporters du Racing peut-être qui sont là. Et parmi eux, comme il en a l'habitude, le président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, qui va prendre place au milieu de ses supporters pour suivre cette rencontre. Il avait eu du mal à digérer la bûche de Noël et notamment cette défaite dont vous parliez tout à l'heure.
48-10, hein. 48-10, ils avaient pris à la maison, à l'Arena, les Racing. J'ai eu peur quand tu me parlais de People, j'ai cru que tu allais me dire que Vincent Moscato était là.
C'est
Denis
pas impossible.
Charbet, ouais, peut-être
il n'aurait pas été sifflé, Vincent, il aurait été applaudi, évidemment. Non.
C'est le sprint final, on parle de revanche, mais c'est vraiment en jeu à tous les étages ce soir, les gars. 21e journée de top 14, plus que 6 matchs avant la fin de la saison régulière, le début des phases finales, les deux premiers directement qualifiés pour les demi-finales, du 3e au 6e, ça ira en barrage, sorte de quart de finale. Et pour l'instant, le Stade français est dans les clous, et même très bien, le Stade français 3e avant le début de cette 21e journée, et le Racing 92, 8e, hors du top 6 pour l'instant. C'est le moment de prendre des points et peut-être un peu plus pour le Racing, les gars.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que le rendez-vous sur le papier a l'air encore un peu plus important, peut-être, ce derby pour le Racing 92, qui est à 5 points de Toulon, le 6e, donc dernier qualifié pour l'instant, si ça devait s'arrêter là, pour les phases finales. Le Racing qui reste sur une défaite à domicile, avec bonus défensif contre Toulouse. Mais voilà, qui a toujours donc en travers de la gorge, on le dit, on le répète, cette défaite à domicile dans sa Paris, la Défense Arena, 48-10 face au Stade français. Et évidemment, dans la préparation de ce derby, ça a été au cœur des discussions et de la motivation, finalement, s'il en fallait encore plus pour aller se déplacer sur la pelouse du Stade français. Écoutez, Didier Cazadé, il en sera des avant du Racing 92.
Disons que voilà, si aujourd'hui t'as pas un sentiment de revanche après l'humiliation qu'on a subie la veille du jour de Noël, on a pris une grande claque dans la gueule ce jour-là. On sait très bien qu'on a affaire à une très bonne équipe qui avec un renouveau sur beaucoup de choses, sur la performance déjà. À nous d'être performants parce qu'on sait que sinon ça passera pas.
Voilà, le Racing 92 qui était quand même deuxième du top 14 après 12 journées et qui n'a pas passé l'hiver, tout simplement, hiver difficile puisqu'ils ont été éliminés en Coupe d'Europe. Et puis il y a eu cette dégringolade, si on peut parler de dégringolade, en tout cas ce moins bien en championnat, ça s'est un peu déréglé. Et les voilà donc à la course au point pour espérer rester en vie dans ce top 14.
C'est vrai que c'est assez impressionnant, Julien, ce qui s'est passé avec le Racing, quoi. Tout semblait, les voyants semblaient ouverts. Deuxième du top 14 après 12 journées, un très bon début de saison. Ouais. Comment t'expliques cette dégringolade?
Dans cette période-là, ils prenaient une toile au Leinster. Ils avaient, ça s'enchaînait quand même les contre-performances. Et c'est vrai que cette année, ils ont eu plusieurs fois des sorties de route assez impressionnantes, hein, ce qui n'est pas si longtemps que ça à Lyon également, où ils ont pris 40 points à Lyon. Ouais. Ça fait, c'est une saison, voilà, il y en a qui parlent de saison de transition, parce qu'on sait qu'à la fin de la saison, il y aura un changement de président, il y a un nouvel entraîneur qui va arriver. C'est une saison un peu particulière pour le Racing, mais bon, c'est un grand club, il faut qu'il se qualifie absolument pour le top 8 et pour le top 6, bien évidemment. Mais bon, dès aujourd'hui, il va falloir qu'il régule quand même, parce que réguler, ça veut dire remettre qui est le patron de la région parisienne. Et aujourd'hui, le Stade français est bien en place avec toute la confiance qu'ils ont pu accumuler au fur et à mesure de cette saison.
Et en plus, il y a quelques absents ce soir côté Racing, Julien et Valentin.
Oui, il y a Finn Russell et Gaël Ficou, les deux internationaux qui ont été plutôt très bons avec leur sélection respective, avec l'Écosse et l'équipe de France. Donc ils sont pas là, touchés au genou. Finn Russell et Gaël Ficou touchés au cou. Hein. Ils devaient être là. Hein. Il n'y avait pas de repos prévu, mais c'est juste que physiquement, ils sont pas aptes. On note quand même des retours qui peuvent être importants, notamment Nolan Le Garec à demi de mêlée qui revient, qui était blessé aux ischio, et également de Cameron Wauki qui lui revient d'une opération une épaule, qui a pu jouer depuis mi-janvier. Alors il est sur le banc pour démarrer, mais ça pourrait faire du bien. En tout cas, lui, il est à la course.
Cameron, ça va être juste un peu, non? Il me semble que c'était une opération du scaphoïde.
Scaphoïde,
c'est.
Et il est là.
Il est dans les délais, il est dans les records, non? En termes de retour.
C'est vrai que ça va vite parce que c'était. Il a pu jouer depuis mi-janvier, donc c'est rapide,
deux mois.
Mais il est dans une course contre la montre aussi pour l'équipe de France, hein, clairement. On a vu qu'à son poste, ça a brillé pendant le le tournoi destination. Donc évidemment, on va voir s'il rentre en fin de match ou comment ils vont l'utiliser, comment Laurent Travers va.
Est-ce que le stade du Racing n'a pas forcé un peu le pas pour le faire revenir? Parce que du coup, tu parlais de l'équipe de France. Et ouais, là, je vais parler un peu individualiste, mais est-ce que le joueur avait intérêt à revenir vite pour repartir blessé?
Ça, c'est toute la question, effectivement, et ce sont des risques, j'imagine, qu'on a, on l'espère en tout cas, évalué pour le joueur. Et puis il y a Ibrahim Diallo aussi qui est de retour après une commotion, donc voilà, qui pourrait faire du bien aussi dans cette équipe du Racing.
Le coup d'envoi de ce Stade Français Racing 92, c'est dans 10 minutes, ce sera à vivre ici sur RMC en intégralité dans l'After Live. On parle de revanche, c'est le cas, on a entendu KZDI en parler également. Côté Stade Français, les gars, on en parle un peu moins, on fait un peu profil bas sur ce thème-là.
On n'a pas fait les fiers, c'est vrai, en conférence de presse d'avant-match notamment. On avait l'impression presque qu'on avait demandé de diffuser un message un peu plus calme, parce que 48-10 avec bonus offensif à l'aller, c'est quand même une belle déculottée mise aux voisins. Mais du côté du Stade Français, effectivement, Gonzalo Quesada notamment a voulu un petit peu calmer les ardeurs de tout le monde en disant oui, on a gagné un match, mais ça ne veut pas dire qu'on est l'équipe la plus dominante, notamment ces dernières années, puisqu'avant cette victoire du Stade Français, le Racing restait quand même sur 5 victoires face au Stade Français Paris. Donc voilà, c'est pas forcément un match qui va changer toute la dynamique. Ici à Jean-Bouin, le Racing s'est imposé 5 fois sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, il y avait plusieurs choses, ne pas surmotiver les Racingmen avec ce genre de déclaration. Et puis il y a également un Stade Français qui vient de perdre un gros match face à Toulon, on va en reparler. Donc Laurent Sempéré, l'entraîneur des avants, qui s'est présenté face aux médias justement, tenait un discours un petit peu plus tempéré.
On est concentré sur nous, concentré comme on a pu l'être depuis le début de la saison. C'est un match important, ça va être un match important pour les deux équipes. Le match aller ne suffit pas à dire qu'on a renversé la balance. Avant ça, ils nous avaient gagné 5 fois d'affilée. Donc quand il y a 5-1, on ne peut pas dire qu'il y a égalité. Deux équipes sont en forme et on va avoir un bon match d'image, ça c'est une certitude.
Et Julien Brugnot, il a plutôt raison, sans péré, de faire un peu profil bas et de ne pas vouloir aller piquer un peu les Racingmen.
Il fait du Guinness là dans ces propos là. Non, ils sont en forme en ce moment, c'est vrai qu'ils sont favoris. Après, c'est vrai que ils sont pas dos au mur comme le Racing, et une équipe dos au mur peut réagir et ça serait malvenu en tout cas pour le Stade Français dans sa course à la qualification directe.
Alors, course à la qualif ou Valentin, même course à la deuxième place, on joue quoi cette fin de saison pour le Stade Français?
Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on pense. On a entendu plusieurs fois au cours de la saison des joueurs du Stade Français dire on ne s'interdit pas de rêver, et ça peut sous-entendre quand même qu'on peut, pourquoi pas, essayer de viser la deuxième place, puisqu'on rappelle que les deux premiers à l'issue de la saison régulière du top 14 sont qualifiés directement pour les demi-finales. Ce soir, le Stade Français est quatrième avec 55 points. Le deuxième, c'est le Stade Rochelais avec 61 points. Donc, le Stade Français, s'il gagne avec bonus, reviendra à un tout petit point de cette deuxième place. Et bon, Julien Brugnot ne dira pas l'inverse. Je pense qu'on y pense forcément, même si on ne l'affiche pas, parce que ça peut mettre un petit peu de pression à une équipe. Mais le Stade Français serait évidemment très content de pouvoir viser cette deuxième place, même si, attention, il n'y a que 5 points d'avance aussi sur le 7e. Et la 7e place, elle n'est plus qualificative pour les phases finales. Donc il faut garder derrière un petit peu, mais on peut aussi se permettre d'être ambitieux au vu de la belle saison que font les Parisiens pour le moment.
Et le dernier match de top 14 de la phase régulière du Stade Français, ce sera à La Rochelle. Ah. Donc ça pourrait pas offrir.
On a vu hier soir, ils sont plutôt forts.
Oui.
L'ambiance est en train de monter à Jean-Bouin. Dans moins de 10 minutes, le coup d'envoi de ce Stade Français Racing 92, ce sera en direct sur RMC avec Julien Brugnot, Julien Richard et Valentin Jamin. Un coup d'œil au foot. Et le Portugal a ouvert le score sur la pelouse du Luxembourg, 1-0. Qui a marqué, à votre avis, les rugbymen?
Le Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, bien évidemment, voilà, le jeune joueur de Portugal.
Exactement, un but de plus pour Ronaldo, le Portugal qui mène déjà 1-0 face au Luxembourg, toujours 0-0 entre Malte et l'Italie. Petite pause et on revient lancer notre grande soirée rugby et foot en fil rouge dans l'After Live sur RMC. À tout de suite.